C'est comme un monstre aquatique qui a déferlé sur la côte pakistanaise. Un mur vert sombre recouvert d'une écume argentée s'est abattu tel un torrent furieux sur Karachi, la capitale économique du Pakistan, arrachant les immeubles et les petites maisons comme s'ils étaient en papier mâché. Je peux vous dire, Lucienne, le spectacle était terrible. Les populations jaillissaient dans les avenues, se précipitant dans leurs voitures. Les pauvres, ils ne sont pas allés bien loin. Les véhicules ont été stoppés par les embouteillages. Leurs occupants ressortaient précipitamment de leurs inutiles coquilles d'acier. Ils couraient. Des colonnes de fuyards chargées de valises et d'enfants filaient entre les voitures immobilisées. Mais la déferlante aquatique progressait sans que rien ni personne puisse l'arrêter. C'était un spectacle horrible. Des milliers de personnes ont été rattrapées, noyées, écrasées et submergées. Les voitures qui flottaient étaient percutées par des bateaux tournoyants, des bus tordus, des trains crevés, des réverbères pliés, des morceaux de toit. Karachi n'est plus qu'une ville noyée dans des eaux boueuses. Merci, Georges. Je viens d'apprendre que les secours internationaux s'organisent pour venir en aide aux sinistrés. Selon les officiels pakistanais, il y aurait déjà entre 10 000 et 20 000 victimes. Nous vous tiendrons au courant des événements au fur et à mesure de leur évolution. 3.
Voilà, c'est passé. Je n'ai pas cessé d'améliorer mes frissons. Pourtant, je manque encore de précision. Ce ne sont pas les humains de ce territoire-là que je visais. Il fallait frapper bien plus au nord-ouest, là où a eu lieu leur dernière explosion atomique souterraine. Bon, ça a dû quand même leur donner à réfléchir. Suis-je trop dur avec eux? Il faut que j'en choisisse un ou deux et que je leur inspire mon grand projet. Comment les trouver dans cette masse grouillante d'individus? Je dois d'abord m'apaiser, oublier temporairement cette idée de mission à confier à quelques humains et me reposer. Mais que se passe-t-il? Quelque chose me pique dans mon pôle sud. Est-il possible qu'ils essaient déjà de se venger? Non. Ils n'ont même pas pris conscience de mon existence en tant qu'être vivant. Alors comment pourraient-ils vouloir me punir?
Expédition en Antarctique. 4. La tête en carbure de tungstène incrustée de diamants vient de transpercer une couche dure de la croûte terrestre. L'extrémité du trépan de la foreuse, ne rencontrant plus de résistance, s'enfonce d'un coup comme un tournevis dans du bois tendre. En surface, dans l'enfer blanc et glacé de l'Antarctique, fouetté par les vents sifflants, les trois scientifiques de l'expédition Charles Wells sont groupés près du derrick de 10 mètres de hauteur, qu'ils ont patiemment assemblé. Les moteurs remontent en grinçant les lourdes tiges d'acier qui ont troué toutes les couches sédimentaires du sol. Sur les écrans de la foreuse s'affichent les premières mesures. Une poche d'air a été détectée à exactement 3623 mètres de profondeur. Sous les regards indifférents d'un groupe de manchots, les trois humains démontent, un par un, les palans de la foreuse, dégagent l'appareil et se penchent au-dessus du trou béant. La tête de carbure a ouvert un orifice d'un mètre de diamètre, suffisant pour laisser passer les scientifiques. Ils lancent de longues échelles souples en câbles d'acier dans le trou. Emmitouflés dans leurs épais anoraks orange, les trois explorateurs s'enfoncent dans les ténèbres. Éclairés par les lumières blanches des grosses torches électriques, mais aussi par les lueurs jaunes à faisceaux réduits des lampes de casque, les entrailles de la Terre se révèlent autour d'eux, luisantes et tortueuses. Deux des trois silhouettes qui s'enfoncent dans les profondeurs ne sont pas des spéléologues mais des paléontologues. Ils sont venus là pour vérifier une hypothèse du plus âgé des trois, le professeur Charles Wells, qui a donné son nom à cette expédition. Celui-ci estime que régnait jadis une température plus clémente au pôle sud et qu'il y avait une vaste forêt de conifères où vivaient probablement des dinosaures. Cette hypothèse avait d'ailleurs été corroborée par la découverte dans les années 1980 grâce au satellite Radarsat d'un lac sous-glaciaire de 250 km de long sur 50 km de large à 3 km de profondeur près de la station russe Vostok. En février 2012, une sonde russe était ensuite parvenue à percer une ouverture jusqu'au lac proprement dit, mais celle-ci de quelques centimètres à peine n'avait permis que de ramener des échantillons